il ne reste plus que deux personnes de l'ancienne génération, Josué et Caleb. Tous les autres ont péri dans la traversée du désert parce qu'ils n'avaient pas écouté la parole de Dieu. Or, ils avaient dit, on va te suivre, mais ils ne l'avaient pas fait en pratique. Et donc, Moïse leur dit, maintenant, Israël, verset 1, écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Les paroles de Dieu, il nous faut les mettre en pratique. Moïse va répéter cette expression, les mettre en pratique, 4 fois dans ce chapitre. On a un problème. Des fois, rien que d'entendre la loi, ça nous fait penser qu'on l'a respectée. J'ai le problème avec ma voiture. Il y a un manuel. Handbook, or mode d'emploi. Et il est dit que c'est la parole du constructeur. Il sait exactement ce dont la voiture a besoin. Et je lis la parole du constructeur. Et je vois que tous les 5000 km, il faut changer l'huile. Il faut aussi changer le filtre à huile. J'ai dit très bien. Et donc à Carrefour, quand j'y passe, ou je mets sur la liste de Nancy, achète 5 litres d'huile, 4 étoiles, plus c'est un peu du luxe, moins ça ne marche pas trop. Le filtre aussi, elle les ramène à la maison. Je les mets dans le placard. Et maintenant, j'ai la conscience tranquille. Ah oui, l'histoire d'huile, oui, je m'en suis occupé. On peut faire la même chose avec la parole de Dieu. On la lit tous les dimanches. On rentre. On met la Bible dans le placard. On se dit, ah oui, Dieu, oh, mais je m'en suis occupé. Si Moïse va nous le rappeler 4 fois, c'est qu'il y a un danger qu'on ne fasse pas. Il ajoute, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Ne pas déformer la parole de Dieu. C'est une commande qu'on retrouve dans toute la Bible. Et même dans le dernier livre, dans un des derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 22:19, il est dit, si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Quelqu'un a dit que si on ajoute à la parole de Dieu, en général on va vers le légalisme. On va dire, si vous venez à l'église, vous devez porter une cravate. Si vous venez à Calvary-Chapelle, il ne faut pas de cravate. Non, ça n'a rien à voir. avec ce que Dieu nous dit. Il veut notre cœur. Il veut notre présence, il veut notre écoute. Mais on aime bien dire, ah non, non, il ne faut pas boire de bière. Il faut pas boire de café, ça c'est plus gênant pour les Américains. Ça c'est souvent le fruit de tradition. La plupart des églises aux États-Unis se rassemblent à 11h le matin, le dimanche matin. Où est-ce que c'est marqué dans la Bible? En fait, c'est parce que Luther aimait boire de la bière le samedi soir. Est-ce que vous le saviez, ça? En fait, Martin Luther aimait bien le samedi soir se réunir avec des étudiants en théologie pour parler de la Bible, pour parler de théologie en buvant de la bière. Donc il faisait ça très tard la nuit. Et puis lui, ce qu'il aurait aimé faire, c'était avoir un culte le soir, le dimanche soir. Et quelqu'un lui avait fait remarquer que Jésus rencontrait son Père le matin. Donc Luther avait dit, le plus, si on veut faire un culte d'une heure, hein, Jésus disait, vous ne pouvez même pas prier avec moi une heure. La dernière limite, c'est de 11h à midi. Et ça a commencé comme ça, et aux États-Unis, ça s'est propagé. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est la tradition. Une autre façon, c'est un problème, c'est de retrancher de la parole de Dieu. Remove, subtract. Et là, c'est souvent la source des hérésies, des fausses doctrines. On va prendre un verset qui nous plaît bien. Et on va fonder une doctrine sur ce verset. Et c'est subtil, parce que vous prenez un chrétien évangélique moyen, un pasteur évangélique moyen, il ne lui viendra jamais à l'idée qu'il retranche quelque chose de la parole de Dieu. Mais peut-être qu'il a des sujets favoris. Et qu'il y en a d'autres dont il ne parle jamais. Est-ce que lui, lorsqu'il représente la parole de Dieu à sa congrégation, est-ce qu'il ne retranche pas en effet quelque chose de la parole de Dieu? Encore une fois, on pense qu'une approche systématique de la Bible, tout le conseil de Dieu, c'est la chose qui va nous faire grandir sainement. Verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Intéressant. Le premier verset, il nous disait, mettez en pratique la parole de Dieu afin que vous viviez. Non seulement vivre, mais entrer en terre promise. Moïse nous dit que nous devons obéir à Dieu. Il parlait à Israël, il nous parle à travers Israël, nous qui sommes maintenant le peuple de Dieu aussi, l'Église. Nous savons que Israël n'est pas fini, que Israël reste le peuple de Dieu. Et donc il y a beaucoup de ces commandements, ces instructions qui s'appliquent aussi bien, qui s'appliquent en général au peuple de Dieu, que ce soit les Juifs ou les chrétiens. Obéir à Dieu parce qu'il veut nous préserver et nous faire prospérer. Ici, il rappelle au verset 3, Baal Péor. On avait vu dans le chapitre 23 du livre des Nombres qu'un roi, Balak, avait demandé à un devin, Balaam, de maudire le peuple d'Israël. Balaam. Et qu'en fait, il n'y arrivait pas. À chaque fois qu'il voulait dire des paroles de malédiction, c'était des bénédictions qui sortaient. Et finalement, Balaam avait eu l'idée, il lui avait suggéré d'envoyer les filles de ces peuplades flirter avec les Israélites. Et il y avait eu une immoralité sexuelle et aussi une idolâtrie qui en avait découlé. Et donc là, il fait le contraste, il dit, vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, vous êtes tous vivants aujourd'hui. C'est un résultat statistique qui a surpris ceux qui faisaient les recherches. Mais ils se sont aperçus que les gens qui pratiquaient leur foi, les gens qui allaient peut-être à l'église au moins une fois par semaine, étaient en meilleure santé que les autres. D'abord, ils avaient des préceptes qu'ils mettaient peut-être en pratique. C'est parce qu'ils aussi avaient un espoir que leur vie n'était pas un fruit d'un hasard cosmique stupide. En fait, ils étaient en contact avec la réalité des choses. On a rencontré un ami là, cette semaine. Et en fait, c'est vrai, son âge était surprenant, il paraissait beaucoup plus âgé qu'il n'était en réalité. Il a eu une vie très difficile, il a connu la rue, les 400 coups. Mais encore une fois, la parole de Dieu n'est pas là pour nous brimer, pour nous restreindre. Elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous bénir. Il faut s'en convaincre parce que c'est la vérité. Le péché, bien sûr, est toujours attrayant. Sinon, on n'irait pas vers le péché. Mais si on sait, si on voit, si on croit ce que nous dit la parole, alors on ne va pas aller faire du canoë-kayak sur le Niagara. Ça peut être super, j'en doute pas un instant, faire du canoë-kayak sur le Niagara, ça doit être super. Jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus du point de non-retour. S'il y a un signe qui nous dit « pas de kayak », c'est pas pour nous empêcher de nous amuser, c'est pour nous protéger. Amen. Verset 5, il redit, mettez-les en pratique dans le pays où vous allez entrer. Verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces choses. De tous ces décrets, pardon. Ce sera là votre sagesse. Vous pourrez faire un livre avec un titre pareil. Ce sera là votre sagesse, point de suspension. Il est important de comprendre que le raisonnement humain, la connaissance humaine, ne nous donne pas la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, ce n'est pas une philosophie de vie qu'on hérite du monde qui nous entoure. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est connaître Dieu. Ça, c'est la vraie sagesse. Et le but de Dieu, quelque part, en se créant une nation pour lui-même, c'était de montrer sa sagesse au monde qui les entourait. Pour cela, il fallait que son peuple obéisse à ses préceptes qui étaient la sagesse. Le prophète Zacharie 8, 23, disait « Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif, ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. 23. Et donc l'idée, c'était que si les Israélites obéissaient, suivaient Dieu, la sagesse d'obéir à Dieu serait évidente à tous. Et Dieu nous donne la même opportunité aujourd'hui de fonder notre vie sur sa sagesse, sur sa parole. Quelqu'un faisait remarquer que c'est terrible quand les non-croyants doivent prendre des décisions importantes. Ils n'ont que leur propre connaissance, leur propre intelligence. Ils se sentent tellement seuls qu'ils regardent aussi l'horoscope. En tant que chrétiens, nous avons accès à la sagesse de Dieu. Nous pouvons lui remettre nos projets. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Il nous ouvre les yeux. Il nous montre que ce que nous croyons être bon, peut-être n'est pas si bon que ça. Et l'idée, c'est que si on laisse Dieu diriger notre vie, ceux qui nous entourent pourront avoir soif de Dieu. Toute proportion gardée, je crois que certaines des réactions que les gens ont eues vendredi soir, c'était que ce qu'ils voyaient, en fait, il y avait de la joie, il y avait un respect de Dieu, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de rire, de plaisanterie aussi. Ça, c'est pour Nadia qui aime bien faire de l'humour, qui a un bon sens de l'humour. Le Seigneur a un grand sens de l'humour. Amen. Et donc, pour montrer que la vie chrétienne, la vie qui respecte Dieu, c'est une vie désirable. Continue en disant « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? » En quelque sorte, il veut leur... Est-ce que vous réalisez le privilège que Dieu vous fait? Et quelque part, là, l'idée, c'est il faut obéir à Dieu, il faut lui montrer notre gratitude. Souvent, on met les choses à l'envers. On veut obéir à Dieu pour essayer de mériter son amour, sa bienveillance, ses bénédictions. Il dit non, vous venez à moi. Vous faites connaissance avec moi. Vous réalisez quel amour j'ai pour vous. Et après, pour de gratitude, de joie, vous allez vouloir plaire à cette personne. Et donc, Israël devait être une lumière pour les nations. Nous sommes aussi, le Seigneur veut que nous soyons une lumière pour les gens qui nous entourent. Il dit qu'autour de nous, il y a une génération perverse. Alors, il ne faut pas dire, oui, c'est vrai, c'est des pervers, et moi, je ne suis pas pervers. Nous sommes tous pervers par naissance. Mais si nous venons à Christ, alors il peut nous montrer son amour et commencer à nous transformer. Et nous, par gratitude, par amour, par joie, on va être transformés. Une lumière pour les nations. C'est le nom de votre association ? Soleil des nations. Pardon. Et c'est vrai que lorsque on voit des chrétiens vivre la vraie vie chrétienne, dans la joie, dans l'amour, on ne parle pas de légalisme, on ne parle pas d'orgueil spirituel. Des personnes qui sincèrement, de tout leur cœur, essayent de suivre Jésus-Christ, c'est irrésistible. Si les gens résistent, c'est parce que nous ne sommes pas des bons témoins. Amen. We're not good witnesses. Bien sûr, Dieu a aussi sa souveraineté. Certains se rebellent. Mais je crois que cette semaine, ça a été un encouragement formidable. De voir qu'en passant quelques heures à parler aux gens, on trouve des gens qui ont soif de vérité, qui ont soif de Dieu, qui ont soif d'amour. Si on reste caché dans nos églises avec nos programmes, ils ne savent même pas que c'est disponible. Amen. Verset 9, « Prends garde encore à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. » C'est une mise en garde très forte, encore une fois, de Moïse pour le peuple d'Israël et pour nous. Il faut être sur nos gardes. Il faut veiller attentivement sur notre âme. De peur d'oublier ce que Dieu a fait. Que ces commandements s'éloignent de mon cœur. Il y a un risque réel de l'oubli. Et donc la nécessité de répéter. On pourrait dire, mais les 10 commandements, on les a déjà vus dans l'Exode, pourquoi est-ce qu'ils vont les rappeler ici ? parce qu'on apprend par répétition. On oublie sinon. On apprend aussi, bien sûr, par mise en pratique. Et le deutéronome, on l'a vu, c'est deutéro, c'est deux. Nom, c'est la loi. C'est la deuxième loi. C'est la deuxième fois que Moïse donne la loi au peuple d'Israël. Verset 9, fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Je crois que ce matin nous avons été tous touchés, peut-être plus même. Par la prière de Sylvie. De voir la foi d'un enfant qui remet sa famille au Seigneur. Nous devons faire connaître le Seigneur à nos enfants. Et à nos petits-enfants, si Dieu nous en donne. Ça, c'est un merveilleux ministère. Et quand je regarde dans ma vie, souvent, j'ai le sentiment de pas avoir été à la hauteur avec mes enfants. D'avoir un culte familial constant. Ça semble être une bataille. L'ennemi veut avoir nos enfants. C'est quelque chose aussi qui est difficile de... pas pour donner des excuses, mais on voit comment les gens prient en public, on peut apprendre en venant. Un culte familial, c'est-à-dire un moment régulier où on parle du Seigneur avec notre famille, nos enfants. Il faut bouger le fil derrière. Et souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On essaye quelque chose. Quand ils sont petits, c'est souvent merveilleux. Puis quand ils commencent à être plus influencés par les copains, par le monde, par la télé, ils ont moins de temps pour écouter. Si on est pasteur, ils disent « Papa, tu vas me faire un sermon. » Mais je crois que là aussi, le Seigneur peut nous donner des façons créatives et plaisantes. Et souvent, on met le blâme ou on se dit « Bon, mais c'est Mike et Betty qui s'occupent de l'école du dimanche. » Ou bien on va dire « C'est la faute à l'école. » Et si c'est pour vous un sujet de préoccupation, remettez-le dans la prière. Et puis peut-être parlez-en à ceux qui ont des enfants. Ben, voyez ce qu'ils font. Peut-être faire une réunion de temps en temps entre parents pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants. Parler à Paul, parler à James, parler à Thierry. Parlez-moi. Je vous dirai ce qu'il ne faut pas faire. Et aux épouses, bien sûr. C'est une bonne remarque parce qu'en fait, je crois que l'homme a une responsabilité, même dans le couple, d'être le prêtre de la famille, quelque part. Et je crois, c'est vrai, bien sûr, Paul, que les femmes sont souvent avec nos enfants plus longtemps. Mais je vois que des fois, moi, ça peut être une excuse pour dire, bon, maintenant, si ça s'assure que Sébastien a fait ses dévotions ce matin, c'est bon. crois que l'idée de base, c'est de se dire, c'est moi qui suis responsable, que ce soit la maman, que ce soit le papa. Mais c'est vrai que la prière de Sylvie ce matin était vraiment un beau moment qui m'a parlé. Si vous êtes grands-parents, c'est aussi un temps où on a plus, un moment de la vie où on a plus de temps. On peut avoir une influence fondamentale. Combien de grands-parents ont prié, ont amené leurs petits-enfants vers le Seigneur? Et donc, Moïse continue en rappelant qu'ils se sont tenus au pied de la montagne, verset 11. Voilà un petit fait intéressant, c'est qu'en fait on pense que c'était pas, il n'y en avait pas 4 d'un côté et 6 de l'autre. Mais que suivant la coutume dans les pays antiques, on faisait une photocopie en pierre du premier texte. Pour ce que ça vaut. Les 10 commandements, les 10 paroles, encore une fois, ce ne sont pas les 10 suggestions. On y reviendra plus loin dans chapitre 5 et suivant. Verset 12, l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure, il n'y avait qu'une voix. Il n'y avait pas de représentation, ils n'avaient pas quelque chose à photographier, à dessiner, à sculpter. On verra le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Exode 23. Exode 20, verset 4. Pas de représentation. Pourquoi? Parce que Dieu sait bien qu'en nous, il y a un besoin inné. C'est une chose très forte, très puissante, et c'est le besoin d'adorer quelqu'un ou quelque chose. Et la chose terrible, c'est que pour adorer, il faut que l'objet de cette adoration soit plus haut que nous. Autrement dit, on se place toujours en dessous de l'objet de l'adoration, que ce soit un homme, un système. Une idole. Verset 16. De peur que vous ne corrompiez, que vous ne fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, de quelque poisson qui soit dans les eaux ou au-dessous de la terre. Verset 19. Aussi de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Les idoles, c'est tout ce qui peut prendre la place qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, on se dit, mais j'ai pas de statuette dans ma maison. J'ai pas un petit hôtel où j'adore tous les jours. Peut-être que vous passez du temps devant un petit objet avec une image qui bouge. Est-ce que ça prend du temps sur la lecture de la parole, sur la prière, sur vos responsabilités envers vos enfants dont on vient de parler? Si, je vous le dis, si j'avais le choix de prendre et d'enlever certains passages, j'aurais pas parlé de ça aujourd'hui, parce que je me convainc de pécher moi-même. Les idoles qu'on peut avoir et qu'on pense pas être des idoles. Peut-être vous dites, oh, la télé, c'est pas un problème. Mais chez vous, il y a des posters de surfeurs. Il y a des planches cassées au mur. Ou skateboards. Tout ce qui prend la première place dans votre vie, ce qui occupe vos pensées, c'est une idole pour Dieu. Et si votre idole, c'est cette planche cassée, vous êtes moins que cette planche cassée. Cette loi a eu une influence sur le peuple juif. C'est vrai qu'à part quelques exceptions, il y a très peu d'artistes juifs dans les beaux-arts. Il n'y a pas de grands sculpteurs, il y a peu de peintres. Par contre, il y a beaucoup de comédiens. Des gens comme Jerry Lewis, Kirk Douglas, de son vrai nom Isur Danielovitch, Marx Brothers. Dans la chanson, Serge Gainsbourg, Jean-Jacques Goldman. Pourquoi? Parce que la culture juive dit qu'on ne fait pas de beaux-arts. Pas de représentation. Et encore une fois, l'influence mondiale du peuple juif. Et sans commune mesure avec leur nombre. Ils représentent moins de 0,5% de la population mondiale, mais ils ont obtenu déjà plus de 25% de tous les prix Nobel. On s'accorde à dire que les personnes les plus importantes de la fin du XXe siècle, enfin de 19e et 20e siècle, ce sont Karl Marx, Sigmund Freud, Charles Darwin et Albert Einstein. Albert Einstein, Sigmund Freud. Non, trois au moins sont juives. Charles Darwin, il y a même une question, peut-être, mais c'est pas sûr. L'importance du peuple juif, qui est un peuple choisi par Dieu, on pourrait dire, basé sur ces statistiques, ils sont 50 fois plus influents que ne le laisserait supposer leur nombre. C'était une parenthèse. Mais c'est une parenthèse importante. Il y avait l'empereur d'Autriche qui demandait à son chambellan de lui dire en une seule phrase une preuve de Dieu, de l'existence de Dieu.
Oui.
Il avait dit le peuple juif. Et c'était avant qu'il sache, Moïse va parler du fait que s'ils n'obéissent pas aux lois, il va prophétiser leur exil. L'exil en Assyrie et en Babylone, à Babylone. Et on peut penser même que l'exil, la diaspora, le fait que les Juifs ont été répartis sur toute la surface du monde, cet exil, Moïse le voyait en disant, si vous n'obéissez pas, vous allez diminuer en nombre. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, on sait qu'en 1948, l'État d'Israël a été reconstitué comme une nation. Et comme accomplissement des prophéties, et il est important de réaliser qu'il n'y a aucun autre groupe ethnique dans l'histoire qui a été dispersé, qui n'a plus de territoire national, qui ait gardé son intégrité raciale, plutôt son unité de nation, et qui soit revenu en tant que nation sur la surface de la terre. Pas de photo, pas de représentation. Vous avez peut-être vu dans les magazines ces derniers temps, il y a une photo de Jésus. Il y en a qui ont vu la nouvelle photo de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont reconstitué cette photo à partir d'un crâne. Et les mêmes gens qui vous dessinent ou qui vous font un modèle sur ordinateur à partir d'une molaire de dinosaure. À partir d'un crâne, à mon avis, il n'y a pas de crâne de Jésus. Pour, avec leur modèle d'ordinateur, constituer une image où on voit un Jésus qui a l'air hébété, abruti. Là encore, on voit comment les gens sont fascinés par Jésus, même s'ils le rejettent, même s'ils veulent dire non, on a retrouvé son crâne et on va montrer son image. Jésus est toujours là qui pose une question plus profonde des gens. Verset 29, c'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Une promesse récurrente dans la Bible. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez car vous me chercherez de tout votre cœur. De la même façon, Jésus disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. De tout notre cœur. Est-ce que nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur? Ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, on fait un effort, mais il ne faut pas être fanatique. Cherchons-le de tout notre cœur. C'est souvent une promesse que j'aime donner aux gens avec qui je parle dans la rue, c'est de leur dire, si soyez sérieux dans votre recherche de Dieu, vous avez la promesse que vous le trouverez. L'obéissance nous promet de trouver Dieu. Verset 30 et suivant, il parle des épreuves qui attendent le peuple juif. Il fait la promesse pardon, il fait la promesse qu'il y aura un retour, il y aura un reste du peuple juif qui reviendra à Dieu. Verset 31, parce que l'Éternel ton Dieu est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. L'amour de Dieu. La compassion de Dieu. C'est important de réaliser que dès l'Ancien Testament, Dieu se fait connaître comme un Dieu d'amour. Verset 37, il a aimé tes pères et choisi leur descendance après eux. C'est la première fois dans la Bible qu'il est dit que Dieu a aimé quelqu'un textuellement. Il l'a démontré déjà dans toute la façon dont il a créé l'homme, comment il l'a mis dans un endroit merveilleux, comment... Dès le départ, il y avait cette promesse que malgré le péché, il y aurait un rachat. Mais là, il dit, il a aimé tes pères. Abraham, Jacob, Isaac. Il nous faut obéir Dieu parce que Dieu nous aime. Plus qu'il faut, nous allons obéir à Dieu lorsque nous comprenons qu'il nous aime. Plus loin, dans Deutéronome, nous verrons une autre raison d'obéir à Dieu, c'est parce que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Il passe ensuite... aux cités de refuge. Vous vous souvenez qu'il y avait deux tribus et demie, Gad, Ruben, et la demi-tribu de Manassé, qui disaient, la terre promise c'est bien, mais nous ça nous suffit ici. Et nous avons vu aussi dans le livre des Nombres que Dieu avait instituer des cités de refuge. Cité de refuge, c'était un endroit où si quelqu'un avait commis un meurtre involontairement, il pouvait courir à la cité de refuge et là, les autres personnes, la famille, les membres de la famille n'avaient plus le droit de faire vengeance eux-mêmes. Nous avons vu que quelque part c'est un type de Christ. Nous avons commis des péchés, mais si nous courons jusqu'à Christ, nous sommes protégés de l'ange de la mort. La punition que nos péchés méritent ne nous touchera pas dans cette cité de refuge qu'est notre Seigneur. On a vu aussi que ces nations, c'est plutôt ces tribus, n'avaient pas vraiment voulu le mieux que Dieu leur donnait. Et ça peut nous encourager que même si on n'est pas au top, la grâce de Dieu nous touche. Il nous protège. Même ces nations avaient droit aussi, ces tribus avaient droit à leur cité de refuge. Et donc on voit, pour terminer, que Moïse leur promettait, c'était solennel, cette promesse que s'ils suivaient les commandements de Dieu, ils seraient bénis au-delà de toute mesure. L'histoire a montré qu'ils n'ont pas été capables. Votre vie, votre histoire vous montre peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas capable de respecter vos engagements devant Dieu. vos promesses, vos bonnes résolutions. Tournons-nous dans Romains, brièvement. Romains 3. Romains 3, 20. Nul ne sera justifié devant Dieu, devant lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le mot justifié, c'est un mot qui signifie simplement être mis en harmonie, en rapport harmonieux, être accepté par Dieu, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas de vitesse limite, je ne sais pas que je vais trop vite. S'il y a un panneau et un policier, je sais qu'il y a une limite. C'est la loi qui va me montrer que je pêche. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui est totalement imbécile. Si un enfant traverse la rue, je peux avoir un meurtre sur la conscience. Galates 2,16, le même Paul nous dit: sachant que l'homme n'est pas justifié, encore une fois, par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Encore une fois, la loi, les 10 commandements, sont parfaits. Il n'y a rien de mauvais. Mais la loi, elle a un problème. C'est qu'elle est donnée à des gens qui ont une vieille nature de pécheurs. Et ce que la Bible appelle la chair, cette vieille nature de pécheur, elle rend la loi sans force. Et donc, tout ce passage du Deutéronome veut nous préparer à la venue de Christ. La loi est bonne et parfaite, mais notre nature est telle que nous ne pouvons pas l'appliquer. Et Paul explique que son but, c'est de nous faire prendre conscience que même si nous sommes, entre guillemets, des bonnes personnes, nous sommes des pécheurs. C'est notre cri, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas parfaits, mais Jésus est parfait. Il a absolument rempli tous les commandements et il a pris notre place de pécheur méritant la punition de la mort. Et pour être accepté par Dieu, justifié, il suffit de reconnaître ce qu'il a fait, de lui demander de venir vivre en nous, de nous pardonner nos péchés et nous aider à marcher avec lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'histoire du peuple juif qui est un exemple pour nous. Seigneur, nous réalisons que nos bonnes résolutions, nos efforts sont vains si ce n'est pas toi qui prends le contrôle de notre vie. Si nous t'obéissons, alors nous aurons une vie merveilleuse. Mais Seigneur, tu nous montres que pour t'obéir, nous avons besoin de toi. Peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur cœur pour les aider à vivre cette vie qu'il leur demande. Si c'est le cas, vous pouvez prier et vous le désirez, vous pouvez prier en silence cette prière après moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. C'est-à-dire que je ne fais pas ta volonté. Je fais peut-être de mon mieux, entre guillemets, mais c'est loin d'être la perfection que tu demandes. Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés. Et Seigneur, je te demande de venir dans mon cœur, dans ma vie, pour m'aider à changer. Je reçois ton pardon. Je reçois ton Esprit Saint en mon cœur pour que tu m'aides à me détourner du péché et que je puisse vivre en te suivant pas à pas. Seigneur, je ne compte que sur toi pour me sauver. Tu es ma cité de refuge. Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière, ce serait la décision la plus importante de votre vie, si vous ne l'avez jamais fait. Et je vous inviterai à venir m'en faire part. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine. Merci encore à l'équipe d'Emmaüs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.